C'est à 18h, à 17h probablement aujourd'hui qu'Emmanuel Macron accueillera les deux ex-touristes français, ex-otages libérés hier après une opération des forces françaises au nord du Burkina Faso. Deux militaires français sont morts dans cette intervention. On fait le point ce matin avec nos deux invités, Antoine Glaser, spécialiste de la géopolitique de l'Afrique, et nous serons rejoints dans un instant au téléphone par Pierre Servant, spécialiste des questions de défense. Les deux touristes français avaient été enlevés le 1er mai dans un parc national de la Pendjari, c'est au nord du Bénin, où ils effectuaient une excursion. Cette zone était pourtant placée en zone rouge par le Quai d'Orsay. Bonjour Antoine Glaser.
Bonjour.
Qu'est-ce qui justifie aujourd'hui que le Bénin soit sur la liste des pays à risque?
Tout simplement parce que les djihadistes ont tendance à descendre, si vous voulez. Au départ, ils étaient uniquement sur l'ensemble de cette zone sahélo-saharienne, hein, de la Mauritanie au Tchad. Et on voit bien qu'il y a la vraie stratégie maintenant de ces djihadistes, c'est de faire fuir l'ensemble des Occidentaux de toute la région. Et comme les Occidentaux, comme maintenant, dans là où il y a l'opération Barkhane, sur ces 5 millions de kilomètres carrés, il n'y a plus du tout, c'était horrible à dire, parce que c'est pas simplement les touristes, il y a plus de coopérants, moins en moins d'ONG. Et du coup, ils ont compris qu'en allant comme ça chercher des touristes dans les états côtiers, je veux dire, c'est vraiment le retour, vous voyez, la colonisation, les gens retournent vers les côtes. Et donc, on voit là que, évidemment, en descendant d'abord, c'est très difficile pour l'opération Barkhane parce que ça les oblige à élargir leur champ.
C'est grand comme l'Europe, hein, cette zone du Sahel.
Il y a 4500 soldats français sur 5 millions de kilomètres carrés. Les Américains en Afghanistan, il y avait 100 000 soldats américains sur 600 000 kilomètres carrés. Je veux dire, c'est vraiment mission impossible. Donc, en descendant finalement vers les états côtiers, ça oblige la France aussi à élargir son champ d'action. Et en fait, en prenant les touristes, c'est très ciblé. Ça veut dire, quand on a vu le chef d'état-major François Lecointe qui parle de la Katiba du Massina, c'est vraiment la France et les Français qui sont visés.
Juste sur le Bénin et le Burkina Faso, ce sont deux pays qui n'ont pas toujours été des pays à risque. C'est apparu quand?
Le Bénin, c'est vraiment très récent, même s'il y a quand même un certain nombre d'alertes. Le Burkina Faso, c'est il y a un an. Ça veut dire, on a vu qu'au départ, ça a démarré au Mali. Vous avez eu l'opération Serval en 2013. Ensuite, l'opération Barkhane. Et on a vu que maintenant, je veux dire, ça s'est élargi. Ça veut dire, vous avez uniquement cette zone sahélienne sur 5 pays. Et vous avez les états côtiers qui sont la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo. Il faut quand même préciser qu'en mars 2016, à Grand Bassam, en Côte d'Ivoire, vous avez eu une première opération d'un complexe hôtelier.
Alors, je sais bien que c'est peut-être un peu délicat de parler de ça, mais vous disiez, c'est une zone extrêmement dangereuse. Est-ce qu'il n'y a pas une forme d'imprudence, voire d'inconscience, que d'aller faire un safari là-dedans, quand on sait que même le Quai d'Orsay dit que c'est une zone fortement déconseillée?
Absolument, mais c'est toute ambiguïté. Ça veut dire, en même temps, évidemment, quand vous êtes un peu passionné, quand vous êtes passionné de l'Afrique, c'est vrai que c'est encore une fois, les djihadistes ont réussi. Oui. Il faut pas se leurrer, c'est pas simplement l'enlèvement.
Les Occidentaux ont déjà déserté
de l'ensemble de cette région. Mais dans un pays comme le Burkina Faso, vous aviez 700 ONG à un certain moment. C'est toute la coopération décentralisée. On n'en parle pas assez. On voit bien sûr les actes, mais c'est la...
Les ONG, c'est autre chose.
Absolument.
Là, il s'agit de tourisme.
Les touristes, c'est vrai que c'est fortement déconseillé. C'est vrai qu'il y avait une sorte d'ambiguïté à cette région au nord du Bénin. Vous aviez le parc du W au Niger qui était vraiment... Il joue sur les mots, formellement déconseillé, sauf si vous avez une entreprise ou quelque chose comme ça. Mais je veux dire, c'est vrai que c'est, vous regardez une carte sur le Conseil au Quai d'Orsay, carte de l'Afrique, c'est zone rouge, totalement, depuis la Mauritanie jusqu'au Tchad. Alors vous avez les états côtiers où il y a encore du tourisme et autres. Mais c'est-à-dire, ça devient de plus en plus difficile et compliqué. Et encore une fois, vous n'avez plus que les grandes capitales. Sauf que, en mars 2016, en Côte d'Ivoire, à Grand Bassam, il y a un complexe hôtelier, il y a eu 30 morts.
Ça, c'est resté comme un traumatisme.
Totalement. C'est-à-dire, la Côte d'Ivoire, il faut savoir qu'il y a encore une base française, 43e Bima, et c'est la base logistique de l'opération Barkhane.
Donc les Maliens étaient complètement impliqués dans le Grand Bassam.
Les Maliens sont descendus et ont attaqué ce complexe hôtelier.
Antoine Glaser, le chef d'état-major des armées, l'a précisé hier, hein, c'est à l'organisation Katiba Massina que devaient être probablement remis les deux Français et les deux autres otages américains sud-coréens. Quelle est cette organisation?
Alors c'est une organisation, en fait, ça devient vraiment son chef s'appelle Amadou Koufa. C'est pas simplement...
Annoncé mort,
mort un temps. C'est-à-dire les Français pensaient l'avoir tué en février 2018.
Et il en veut particulièrement la France.
Il était à Paris en novembre 2018 et ça devient vraiment, avec Iyad Khali, un Touareg malien, ça devient vraiment l'ennemi public de l'armée française. Mais il faut savoir que c'est pas simplement un chef djihadiste et autres. C'est un prédicateur peul, musulman, et qui profite des conflits intercommunautaires entre de ces pays. Et lui, il a appelé tous les peuls à se mobiliser contre la France.
Et les peuls, ça va jusqu'au Sénégal.
Absolument, du Sénégal jusqu'en Centrafrique. Donc, je veux dire, c'est un prédicateur. Il ne faut pas croire qu'ils sont isolés. Il a une implantation locale réelle. Il mobilise vraiment les peuls, son ethnie. Il parle uniquement Foulbé en peul.
Et donc, il en fait un conflit ethnique.
C'est-à-dire que lui, il instrumentalise. À partir du moment, c'est pour ça que l'armée française est de plus en plus hors sol et offshore. Ça veut dire à partir du moment où les États ne remplissent pas leur souveraineté et leur un certain nombre de niveaux santé, éducation. Donc à partir de ce moment-là, c'est vrai que quelqu'un comme Amadou Koufa peut mobiliser en particulier les jeunes sans emploi de toute la région. Et toute la région, avant c'était le nord du Mali, toute la région du centre du Mali où il y a eu un massacre épouvantable, 160 morts des peuls au Gassougou le 23 mars 2019. Et là, ça a vraiment fait une sorte de traumatisme dans le pays. Et on voit que l'État ne remplissant pas ses fonctions, bien évidemment, Amadou Koufa, s'il avait réussi à prendre ces deux otages français, aurait eu une aura encore plus importante dans toute cette région.
Aujourd'hui, on sait s'il est mort ou pas, finalement.
Il n'est pas mort, absolument.
On va accueillir notre second invité au téléphone. Bonjour Pierre Servent.
Bonjour.
Spécialiste des questions de défense. Si la Katima Massena avait réussi à se faire transférer les quatre prisonniers, donc deux Français, une Américaine et une Sud-Coréenne, pourquoi aurait-il été ensuite beaucoup plus délicat ou impossible de les libérer militairement?
Tout simplement parce que les otages auraient pu être éclatés, c'est-à-dire séparés. À ce moment-là, ça devient encore plus difficile de les récupérer. Et puis parce que dans l'immense étendue dont on parle, ça devient extrêmement compliqué d'avoir le renseignement nécessaire pour monter une opération. Donc c'est pour ça que les forces spéciales sont intervenues à un moment où ces otages étaient encore regroupés et pas encore passés au Mali ou ailleurs.
Une opération d'une rare difficulté, a dit hier le chef d'état-major des armées en faisant allusion à ses forces spéciales. Une vingtaine de commandos qui ont donc sauvé ces otages. Qui sont ces forces spéciales sur le terrain au Sahel?
Alors ces forces spéciales sont très engagées depuis Serval et encore plus avec Barkhane. La caractéristique des forces spéciales, c'est que ils agissent par petits groupes. Ce sont pas des grosses unités constituées comme des compagnies, encore moins des régiments. Donc avec beaucoup d'autonomie, beaucoup de rusticité sur le terrain. Leur temps favori d'intervention, c'est la nuit. Ils agissent sous jumelles de vision nocturne. C'est ce qui s'est passé pour cette opération-là.
En terrain dégagé, donc ils peuvent pas trop s'abriter.
Voilà, c'est ça qui est compliqué. J'étais dans cette région il y a quelques mois, et de nuit, ce qui est très compliqué, c'est que Antoine Glaser le sait, c'est que parfois les nuits sont extrêmement lumineuses. On y voit pratiquement comme en plein jour. Et par ailleurs, plus la zone est désertique, plus le son se répand à grande vitesse. Donc, ce sont des opérations extrêmement complexes. Et ces commandos sont extrêmement aguerris et ils cumulent les très anciennes traditions de rusticité des commandos français qui sont intervenus, qui ont été formés par les Britanniques durant la Seconde Guerre mondiale, et une très grande technologie qui leur permet notamment d'intégrer tout le renseignement qui va permettre de conduire l'action dans ces conditions très très difficiles. Conditions très difficiles parce qu'ils ne peuvent pas monter à l'assaut. Le général Lecointre l'a rappelé en dégageant une puissance de feu très grande, puisqu'il s'agit de libérer des otages, donc c'est extrêmement complexe.
Pierre Servent, le général Lecointre disait aussi que c'était comme pour un enlèvement d'enfants, qu'il fallait agir tout de suite. Est-ce à dire que pour Sophie Pétronin, qui est détenue donc depuis 3 ans maintenant dans le nord du Mali, ça devient mission impossible? Enfin, c'est quelque chose d'extraordinairement délicat?
Oui, évidemment, plus le temps passe, plus ça devient difficile. Et puis, ce qui est très délicat, c'est que Antoine Glaser l'a souligné, on a une situation chaotique dans toute la région. vous avez à la fois des groupes terroristes, des groupes mafieux terroristes. Vous avez aussi des personnes qui vont agir par opportunité, c'est-à-dire que s'ils voient passer un occidental, ils vont être tentés de le capturer parce qu'ils savent qu'ils peuvent le revendre. Donc il y a effectivement des cas de très grandes difficultés. C'est pour ça que là, la décision a été prise d'intervenir très tôt. Ça a été fait dans le passé avec malheureusement un résultat tragique pour les otages. Rappelez-vous, en 2011, deux otages français qui avaient été capturés à Niamey et transférés justement vers le Mali pour rentrer dans les zones totalement contrôlées par ACMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique. Donc une opération avait été lancée. Malheureusement, les otages avaient été tués à ce moment-là. C'est pour vous dire que l'extrême difficulté est le fait qu'il faut décider très vite à partir du renseignement, et vous avez vu que le général Lecoin donc a cité à la fois l'ADRM, la direction du renseignement militaire français, les Américains.
Oui, d'ailleurs, les Américains, la nature de leur coup de main, ça a été de quelle sorte hier?
Alors, je suis incapable de vous le dire parce que je n'ai pas le détail de l'opération, mais on travaille
avec
les Français. Logistique, mais certainement aussi en matière de renseignement. Ils ont des moyens satellitaires, ils ont des drones, ils ont aussi du renseignement humain par leurs propres canaux. Et puis ce qui a été sans doute déterminant, c'est ce qui a été évoqué, à savoir que les forces spéciales françaises, donc qui se trouvent sur zone et qui ont leur centre, le PC de Sabre, l'opération force spéciale à Tombouctou, est parvenu, semble-t-il, il y a quelques jours, à trouver une autre source de renseignement qui, là, à mon avis, est du renseignement humain, peut-être avec l'aide des Burkinabés.
Et pour savoir qu'ils faisaient une halte, une pause au Burkina Faso, et c'est là qu'il fallait intervenir, donc.
Voilà, alors je ne sais pas s'ils ont su qu'ils allaient faire une halte, c'est une supposition. Ces terroristes doivent quand même dormir, manger à certains moments, donc, mais c'est plutôt la traçabilité, essayer de savoir par quel endroit ils étaient passés, là où ils avaient pu être vus, quel contact ils avaient pris. Et après, il faut monter l'opération très, très rapidement avec des techniques d'infiltration très sophistiquées.
Nos deux invités ce matin pour débriefer l'opération militaire au Burkina Faso, Antoine Glaser, spécialiste de la géopolitique africaine, et Pierre Servant, spécialiste des questions de défense. Antoine Glaser, ce terrorisme djihadiste avec prise d'otages au Sahel, vous l'évoquiez tout à l'heure, mais quel est le degré réel de contamination des pays voisins? Et je pense aux pays côtiers quand on va vers l'ouest, je pense au Sénégal et la Côte d'Ivoire. Sont-ils durablement impactés et menacés?
Ils sont pas, bien sûr, ils sont menacés, mais pour l'instant, ce sont beaucoup plus les touristes ou les étrangers, les occidentaux, qui sont menacés dans les pays côtiers. C'est moins, on peut pas dire, dans un pays comme le Sénégal, qui est un pays de confrérie islamique. Et il faut pas non plus confondre. Bien sûr, ce sont des pays musulmans. Il n'y a absolument pas de djihadistes, même si parfois on dit qu'il y a une radicalisation dans un certain nombre de ces pays. Mais encore une fois, il faut quand même bien expliquer que c'est une question de terreau, une question sociale, économique, parce qu'on voit que le djihadisme et on ne voit pas le reste, en fait.
On va en parler. Ce qu'a démontré cette dernière prise d'otage aussi au Bénin, c'est l'extrême facilité aux ravisseurs de se déplacer entre les pays. Cette porosité des frontières, elle est récente ou ça a toujours existé?
Ça a toujours existé, il n'y a pas de frontières. Enfin, il faut quand même rappeler que ce sont les colonisateurs qui ont quand même tracé à la règle ces frontières. Les valeureux capitaines de l'Empire ont pénétré le cœur du continent en découpant l'Afrique en tranches napolitaines, en découpant même les ethnies et toutes les populations qui étaient plutôt installées d'une façon horizontale. Ils ont découpé ça d'une façon verticale. Ça n'a pas de sens quand vous êtes en Afrique. Ce qui compte en Afrique, c'est votre ethnie, votre clan, la famille voisine. Si vous êtes au Togo, si vous êtes Ewe, ben vous avez la famille, vous êtes au Togo, vous avez la famille au Ghana. Donc c'est vraiment ça qui compte. Vous êtes il faut comprendre, il y a une sorte de schizophrénie. Bon, il y a des États, il y a des frontières, mais le problème c'est la déliquescence des États. Le problème c'est que beaucoup d'États sont faillis, donc beaucoup d'États ont finalement, avec une certaine responsabilité du FMI, de la Banque mondiale à un moment donné, qui ont tapé dans les budgets de santé, d'éducation de ces pays. Et donc il y a beaucoup d'États, en particulier du centre du Sahel, qui n'assurent absolument pas leur sécurité. Et il confie, il faut dire que la France a assuré la sécurité pendant toute la période de la guerre froide, de 1960 des indépendances, jusqu'en 90 à la chute du mur de Berlin, a assuré dans un système intégré qu'on appelait la France-Afrique, un système politique, politique, financier, économique, avait un système intégré, il n'y avait pas de concurrence.
À la manœuvre.
Et donc, bien évidemment, c'est aussi ça. Je veux dire, il n'y a pas de sécurité dans tous ces pays, il n'y a pas d'armée, surtout.
Et dans cette affaire, il y a eu un premier mort qui est le guide de ces deux touristes, Fiak Gbedji, qui lui, alors descendu comme un moins que rien, donc c'était pas une monnaie d'échange, ça prouve aussi le cynisme absolu des ravisseurs.
Alors, j'ai pas recoupé l'information, mais on dit qu'il a été égorgé. Enfin, c'est horrible, mais ça veut dire aussi que c'était un signe. Ça veut dire aussi que c'est pas simplement des coupeurs de route qui l'ont enlevé. En même temps, évidemment, il y avait des bêtes faux, des bêtes sauvages et autres, donc ils ont retrouvé son corps dans un très mauvais état. Mais je veux dire, c'est encore une fois, le fait justement que le guide ait été tué, ont montré que c'était un enlèvement, parce que sinon le guide aurait pu servir d'intermédiaire avec des gens qui auraient voulu des rançons. Là, le fait qu'il était égorgé et tué ont montré que c'était vraiment un enlèvement des djihadistes, c'était très ciblé.
Antoine Glaser, vous évoquiez la condition difficile, condition sociale difficile, économique, militaire de ces pays. Est-ce que la France apporte une aide autre que militaire dans cette région du Sahel?
Oui, il y a un relais au niveau de l'aide au développement avec l'Agence française de développement. Mais très franchement, je veux dire, qu'on connaissait le fameux adage, faut apprendre aux gens à pêcher, non pas leur donner du poisson. Je veux dire, on se trouve en Afrique où est-ce que l'aide sert vraiment à quelque chose? Est-ce que la France peut encore vraiment aider ces pays? Est-ce que l'armée française n'est pas de plus en plus en décalage par rapport à des réalités sociales et économiques qu'elle ne maîtrise pas? Encore une fois, quand la France contrôlait à 100% ces régions, bien évidemment, elle était, vous aviez 50 000 Français et des assistants techniques dans un pays comme la Côte d'Ivoire. Bon, on est maintenant dans une nouvelle période. Il faut quand même savoir que l'Afrique se mondialise et qu'on est complètement dans une nouvelle période historique. Il ne faut pas poursuivre un anachronisme historique.
Une dernière question au téléphone à vous, Pierre Servant, spécialiste des questions de défense. Qui est ressorti aussi de l'opération hier, telle qu'elle a été commentée par le chef d'état-major des armées, c'est la détermination des preneurs d'otages. Ce sont des hommes qui sont entraînés à mourir.
Est-ce que je ne sais pas si on peut être entraîné à mourir? Ce sont des personnes totalement déterminées. Antoine Glaser a raison de dire que leur mode opératoire, le fait d'avoir tout de suite exécuté le guide des touristes, signé leur façon de faire, bon, ce sont en tout cas des combattants qui sont prêts à mourir pour leur foi, une foi qui est complètement dévoyée. Et donc c'est une extrême difficulté. Je voudrais quand même rajouter d'un mot rapidement que depuis l'opération Serval et Barkhane, on a eu un effet boule de mercure, c'est-à-dire que le territoire qui était contrôlé par les djihadistes a été détruit et reconquis, ce qui est une très bonne chose, mais évidemment les djihadistes se sont répandus, et effectivement tant que les problématiques de développement, les problématiques sociales et économiques ne sont pas prises à bras-le-corps par les gouvernements locaux, eh bien l'armée française, l'ONU, les éléments européens qui sont présents ne peuvent agir qu'à la marge, et donc c'est pour ça que j'ai toujours dit que nous sommes présents dans ces pays et que ces problématiques ne sont pas des problématiques qui sont à mesurer en années, mais en décennies.
Eh bien, merci d'être venu le dire ce matin sur France Inter. Pierre Servant, donc, je rappelle votre dernier livre qui a pour titre 50 nuances de guerre. Pierre Servant, c'est paru aux éditions Robert Laffont. Antoine Glaser, je rappelle aussi que vous êtes co-auteur de Nos chers espions en Afrique, paru aux éditions Fayard. Vous l'avez co-écrit avec
Thomas Hoffnung.
Thomas Hoffnung, il fallait le mentionner. Merci beaucoup et bonne journée, il est 8h39.